Chapitre 5. Chronomètre de chemin de fer American Company. J'ai attrapé le paquet et l'ai secoué dans tous les sens. Une boîte de munitions est tombée par terre et des ballons de cuivre de la taille d'un petit doigt se sont éparpillés sur le sol du refuge avec un tintement sinistre. Pour le reste, il n'y avait rien dans la boîte. Rien que cette vieille montre à gousset. Eddie l'a soulevée avec deux doigts. Elle ne payait vraiment pas de mine avec son boîtier en argent opaque et tout éraflé. Le cadran n'avait pas de nombre, mais une série de tiges toutes droites et de X. En bas, il y avait un autre cadran plus petit qui servait peut-être à compter les secondes. En haut, à l'endroit où l'on pouvait accrocher la chaînette, il y avait aussi la molette pour remonter le mécanisme. « Ouah !» s'est-il écrié. « Vous avez vu cette inscription ? C'est une montre de l'American Company. Ce sont les meilleures du monde. » Elles sont utilisées par les chefs de gare. C'est mon père qui me l'a dit. Il en a une lui aussi.
Tu parles d'une merveille, ai-je bougonné. Il n'y a même pas de chiffres.
Mais si, il y a des chiffres, a répondu Eddie en reniflant. Simplement, ce sont des chiffres romains. Tu vois, 1, 2, 3, ça c'est un 4. Le V c'est un 5. Julie a tout sauté. Excusez-moi les garçons, mais à mon avis, le problème, ce ne sont pas les chiffres. Le problème, c'est que ce truc n'est certainement pas une arme à feu.
Joju avait raison, il n'y avait pas à dire.
Où était passé notre revolver?
Les balles étaient là, après tout.
Il y a certainement eu une erreur au moment de l'expédition. Sans rire, a rétorqué Joju, moi qui pensais que le revolver s'était transformé en montre, comme par magie.
Il y avait des jours où ça m'énervait de l'avoir joué les mademoiselles, je sais tout.
Ce que je voulais dire, eh bien, c'est ça, voilà, le revolver n'est pas devenu une montre tout seul. Par conséquent, ils nous ont sûrement envoyé le mauvais paquet. Vous voyez la boîte de munitions? Le couvercle en carton est tout déchiré. Et ce n'est pas à cause de moi. Ils nous ont donné un article en mauvais état et une montre au lieu d'un revolver. J'ai ensuite attrapé l'emballage du colis postal que j'ai soigneusement déplié par terre.
Vous savez lire, vous aussi, non? Remboursement garanti. Ça veut dire qu'on peut tout leur envoyer et qu'ils nous rendront l'argent.
Je jus à ricaner et j'ai compris qu'elle allait lancer une autre de ses fameuses répliques. « Si je ne m'abuse, on n'a même plus un cent, parce qu'on a régulièrement dépensé nos $3. Alors comment veux-tu qu'on leur envoie une autre lettre pour demander à être remboursé ?»«
On va bien finir par y arriver. » Pendant tout ce temps, Eddie et Mine étaient restés là, à regarder la montre, la boule grande ouverte, comme deux andouilles. Alors j'ai marmonné. « Ed, arrête de faire cette tête et aide-nous un peu. »«
Hé, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit ou quoi ?» C'est une montre de l'American Company.
J'ai haussé les épaules. Moi, je la trouvais tout abîmée et même vieillotte.
Je parie qu'elle vaut au moins $20, a-t-il poursuivi. Elle coûte sûrement plus cher qu'un revolver. C'est une chance qu'il nous l'ait envoyée. On pourrait la revendre et récolter un tas de sous.
C'était une perspective intéressante. Pour la première fois, j'ai regardé ce machin inutile d'un œil différent.
Tu es sérieux?
Bien sûr que oui. Tiens, je vais essayer de la remonter. Mon ami a attrapé la molette et l'a tournée. Sauf qu'au lieu d'un beau bruit mécanique, on a entendu un « crac » comme le cri d'une cigale moribonde et l'aiguille des heures a sauté sur le 7. Un autre tour, un autre crac, et l'aiguille a sauté sur le 9, après avoir fait un tour de cadran complet. Celle des minutes n'a même pas bougé, le petit cadran des secondes non plus.
« Ce n'est pas normal, » a marmonné Ed, avant de tourner la molette encore et encore.
« Mais rien à faire. » L'aiguille était comme folle et il n'y avait pas moyen de la faire avancer dans le bon sens. De toute évidence, le mécanisme était détraqué.
Il nous avait envoyé une montre cassée.
Bon, manifestement, il ne nous reste plus qu'à mettre un peu d'argent de côté et à demander qu'on nous rembourse.
Et si on vendait les balles, a suggéré Eddie.
Et à qui veux-tu qu'on les vende, gros malin, ai-je pesté? Si les gens nous voient avec des balles de revolver, on se fera aussitôt repérer et on sera pichu.
On pourrait peut-être ouvrir l'œil et chercher d'autres pièces par-ci par-là.
Au fond, on n'a besoin que de quelques cents, a dit Joju. Et puis Eddie, tes parents ne te donnent pas une pièce le dimanche et tu décroches une bonne note au cours du révérend?
N'y pensez même pas, a-t-il protesté. Ces pièces, elles sont à moi. J'achète des biscuits au chocolat avec. En plus, c'est toujours vous qui les mangez.
Joju m'a attrapé par l'épaule avant que je puisse faire sa fête à ce sale égoïste.
Je suis sûre qu'on va y arriver d'une manière ou d'une autre, a-t-elle souri. En attendant, c'est nous qui allons garder la montre. On dirait qu'elle plaît beaucoup à Mine.
Je me suis tournée. Le petit faisait tourner la molette de l'oignon. C'est un drôle de nom, mais c'est aussi comme ça qu'on appelle une montre à gousset. Chaque fois que le mécanisme se déclenchait, il ricanait tout seul. Je ne l'avais pas vu aussi joyeux depuis des lustres. J'ai poussé un soupir. Bon, d'accord, Mine pouvait garder la montre un moment s'il y tenait. Mais il valait mieux qu'il ne s'y attache pas trop. En deux temps, trois mouvements, on allait trouver l'argent nécessaire, demander le remboursement garanti que promettait la publicité, et cette montre repartirait là d'où elle était venue. J'avais raison, oh combien! Seulement je ne le savais pas encore à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, personne n'aurait pu prévoir l'incroyable coup du sort qui s'apprêtait à nous tomber dessus comme un orage d'été. En rentrant à la maison cet après-midi-là, je suis tombée sur mon frère Chuck, son ceinturon à la main, Tideux qui secouait la tête, et maman avec le visage rougi comme si elle avait pleuré. Il s'était sûrement passé quelque chose, mais quoi? Très vite, mon petit frère, Tideux, m'a collé une baffe, la main grande ouverte. Il ne me frappait jamais, à part quelques claques de temps en temps, mais pas beaucoup. Puis il a dit « Monsieur Queneau nous a tout raconté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de paquet, ces $2 que tu t'es fait prêter ?» Voilà ce qui était arrivé. Ce bon à rien de facteur avait été pris par une espèce de cas de conscience. Il savait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison. $2, c'était une jolie somme. Et puis tout ce manège avec Ed qui me les avait prêtés sans discuter, etc. Il avait trouvé sa louche. Bref, il était passé voir maman pour vérifier si tout allait bien. Et là, ça lui avait assuré qu'elle n'avait rien commandé dans le catalogue du Mr. Walker et surtout qu'elle n'avait pas de quoi payer une somme pareille. « Il vaut mieux que tu nous expliques tout, petit trois, » a dit Chuck avec un petit sourire méchant. « Autrement, je te promets que tu pourras pas t'asseoir pendant une semaine. » Ils étaient en rogne après moi pour tout un tas de raisons absurdes. Et pour cause, que nous avait raconté qu'Eddie et moi, on était avec cette vermine de Julie, et tout le monde savait que c'était une mauvaise fréquentation. En plus, on avait visiblement acheté Dieu sait quoi dans le catalogue, sans demander la permission, et avec de l'argent qui sortait de nulle part. Il y avait forcément un mauvais coup là-dessous. Maintenant, pensez ce que vous voulez, mais je ne suis pas un lâche, parole de petit trois. Je me suis muré dans un silence héroïque et plein de dignité devant toutes ces questions. Et quand Chuck a fait marcher son ceinturon, j'ai pleuré, mais juste un peu. Finalement, maman, à bout de nerfs, m'a attrapé par un bras et m'a traîné jusqu'au village. La maison du docteur Brown se trouvait en plein dans l'artère principale, à côté de la droguerie de Monsieur Travers. C'était l'une des plus belles du secteur, avec ses deux étages et sa façade fraîchement repeinte. À l'intérieur, c'était une véritable farandole de miroirs, de lustres et de bibliothèques. Il y avait même une domestique qui aidait Monsieur Brown à préparer le repas. Maman était un peu intimidée par tous ces objets luxueux, mais a quand même demandé à parler au docteur Brown. Voyant que j'étais là, moi aussi, le docteur a fait appeler Eddie, qui a tout de suite fondu en larmes. Cette fois, pourtant, je n'avais aucune raison de lui en vouloir. Ça avait déjà été ma fête, et il savait que ce serait la sienne dans peu de temps. Le fait est qu'avec Eddie, son père, maman et mon frère Chuck, nous sommes enfermés dans le cabinet du docteur Brown. A alors commencé un véritable interrogatoire. Pire qu'au poste de police. Entre deux questions, c'était le moment des serments. On nous avait déjà dit qu'il ne fallait pas fréquenter Julie, que traîner avec elle pouvait entacher le nom respectable de nos deux familles, que l'argent est le fruit du travail, et que si on l'avait volé, on avait trahi les 10 commandements de la Bible, etc., etc. Au bout de 2 heures, toute cette histoire nous a fatigués, Eddie et moi. J'ai fini par m'énerver et demander qu'on nous laisse tranquille. De toute façon, ces sous, on ne les avait pas volés, on les avait trouvés. « Ça, par exemple !» a répliqué le docteur Brown. « Et où, par curiosité ?»« Dans le bayou, monsieur. On était en train de pêcher, on a remonté une boîte de conserve et il y avait $3 cachés à l'intérieur. » Eddie m'a regardé de travers car il avait peur que je parle du canoë et du refuge. Les adultes auraient forcément voulu y aller et on n'aurait plus jamais eu le droit d'y retourner. Mais je n'étais pas idiot, ça non. Le problème, c'est que je n'avais pas prévu que ces $3 mettraient en colère maman et le docteur Brown. Ça voulait dire qu'on avait de l'argent et qu'au lieu de le partager avec nos familles, on l'avait dépensé bêtement. Tu sais à quel point ça nous serait utile, $3 en ce moment, a dit maman. Je m'attendais à mieux de votre part, jeunes gens, a ajouté le docteur Brown. Ils nous ont ensuite demandé ce qu'on avait commandé dans ce catalogue pour gaspiller nos dollars. Avec Eddie, nous nous sommes à nouveau regardés et j'ai compris qu'on était vraiment dans de beaux draps. Si je parlais du revolver, ce serait l'enfer et les coups recommenceraient à pleuvoir. Et si je parlais de la montre, ils voudraient la garder pour eux et on n'aurait qu'à faire une croix sur notre remboursement. Alors j'ai quitté ma chaise et murmuré. On avait commandé un livre avec des images, mais on l'a laissé échapper sur le pont du bayou breton et il a fini dans l'eau. Ce n'était pas extraordinaire comme excuse, j'en conviens, mais c'était une excuse quand même. Eddie s'est empressé d'ajouter quelques détails, moi aussi, on a continué sur notre lancée un petit moment. Finalement, on a enduré un autre lot de sermons interminables. C'était la première fois qu'on se montrait aussi décevant. On pouvait être sûr qu'on ne se reverrait jamais et qu'on allait passer au moins les 10 années à venir enfermés chez nous en guise de punition. Là-dessus, maman et Chuck m'ont poussé dehors, après avoir fait 1000 excuses au docteur Brown et 1000 salam alek pendant qu'il y pleurait déjà comme une fontaine. On est rentré à la maison et mon frère m'a encore passé un savon, un grand coup de ceinturon, des fois que j'aurais oublié celui tout à l'heure, ce qui n'était pas le cas, loin de là. Et pour finir, tant qu'à faire, ils m'ont envoyé au lit sans dîner. Ce n'est pas drôle de rester à la maison en hiver quand l'humidité traverse les murs et vous pénètre jusqu'à la moelle des os. Le marais se remplit de brumes grises et d'ombres qui se déplacent on ne sait trop où. Mais c'est pire, bien pire d'être prisonnier quand l'été frappe à la porte. Notre chambre était orientée vers l'est et le soleil tapait dessus dès le matin. À 9 heures, c'était déjà une véritable étuve. Mes frères avaient tort de ne me parler sous aucun prétexte. À peine réveillés, ils se dépêchaient de sortir en silence. Petit 5 me jetait un œil inquiet et petit 2 secouait la tête. J'avais pour mission d'enlever les moustiquaires dessous les lits, de les suspendre à la fenêtre, de m'occuper des draps et des têtes d'oreiller, mais aussi de vérifier si petit 5 n'avait pas fait pipi au lit. À ce moment-là seulement, maman m'apportait mon petit déjeuner, un verre de lait et une pomme. Elle disait « J'espère que ça te servira de leçon, petit 3 » et s'en allait. J'ouvrais alors les carreaux pour me mettre à la fenêtre et regarder les champs, les arbres et la silhouette sombre du bayou, tout là-bas, avec cette chaleur qui montait du sol en faisant trembler l'air. Ça aurait été formidable d'être libre, d'aller chasser les lapins et pêcher, puis de retourner au refuge, passer les heures les plus chaudes de la journée, et qui sait, fumer une pipe avec Eddie et Julie, en parlant de tout et de rien, comme toujours. Parfois, je finissais par penser que trouver ces pièces dans cette boîte m'avait vraiment porté la poisse, car il avait suffi que je mette la main dessus pour que les catastrophes s'enchaînent. À l'heure du déjeuner, maman m'envoyait aider Petit 2 et Chuck à s'occuper de la ferme. Ces deux-là ne me lâchaient pas déçus un seul instant et me donnaient des ordres comme un petit soldat. Le soir, j'en rentrais à la maison lessivée, mais on me faisait manger seul. Je devais ensuite remonter à l'étage, replacer les moustiquaires sur les lits, m'allonger sur mon lit et extinction des feux. Cette vie infernale a duré quelques jours encore, jusqu'à ce qu'un soir, au coucher du soleil, Joju vient me rendre visite.